Et en fait, du coup, quand on est parti, je me suis dit, ça peut pas s'arrêter comme ça avec mes collègues du collège. À moi maintenant de les accueillir dans mon pays.
On a découvert d'autres gens, on s'est pas juste changé nous-mêmes. J'ai l'impression qu'on a quand même.
On a reçu beaucoup.
On a reçu beaucoup et c'est pas nous qui nous sommes changés, c'est nos interactions, c'est les gens
qui nous ont rencontrés,
nos missions.
Les rencontres qu'on a eues, ouais.
C'est un peu un ensemble de facteurs qui nous ont fait évoluer.
Et maintenant, on a plein d'amis en Égypte.
Alors, je m'appelle Timothée.
Moi, c'est Lorraine. On a tous les deux 26 ans, on habite à Ingwiller en Alsace. Et moi, dans la vie, je suis animatrice dans une association qui s'appelle les EUL à Neuwiller-les-Savernes. Et j'organise des camps, des séjours et j'anime une expo dans les écoles et les lycées contre le racisme et les discriminations.
Et moi, je suis professeur des écoles en petite section de maternelle à Strasbourg, à Cronenbourg. On est partis tous les deux en Égypte, au Caire. Lorraine a...
Alors moi j'étais prof dans un collège, j'étais prof de français, je faisais en quelque sorte du français langue étrangère pour beaucoup d'élèves, presque 200 élèves que je voyais régulièrement dans la semaine. Et à côté de ça, j'allais aussi apporter mon aide dans une maison qui s'appelle la maison Fowler, où Tim travaillait, il vous en dira plus.
Et moi, je travaillais du coup dans une maison qui est un genre d'orphelinat de jeunes filles qui suivent un parcours franco-arabe. Et donc, le matin, elles allaient à l'école et l'après-midi, on faisait de l'aide aux devoirs avec elles pour les aider en français. Donc, les maths en français, les devoirs de français, les sciences en français, tout ça. Enfin, voilà. Notre lien avec le DFAP, personnellement, il est un peu plus ancien ici, toi aussi je pense, parce qu'on connaissait déjà le DFAP avant de partir en Égypte. On est tous les deux issus du milieu protestant. Moi, j'étais déjà une ou deux fois au DFAP à la maison à Paris avec mes parents quand j'étais enfant. Voilà, et du coup, on connaissait le DFAP par Laura qui l'accompagne dans le milieu protestant et tout ça. Voilà.
Et en fait, c'est au moment de réfléchir à partir un an faire du volontariat à l'étranger que on s'est mis en contact vraiment avec le DFAP pour partir en mission tous les deux. Et finalement, notre lien avec le DFAP s'est vraiment développé à partir de là. On a suivi une formation avant de partir à l'étranger. On a été en contact régulièrement avec Laura, Caroline et différentes personnes du DFAP quand on était parti, puis quand on est revenu aussi, on a été accueillis à notre tour et on a pu faire part de notre vécu à l'étranger là-bas avec les autres envoyés. Et voilà, c'est plein de bons souvenirs qu'on a au DFAP parce que c'était des semaines entières où on était avec d'autres jeunes de notre âge, ou pas de notre âge d'ailleurs, qui partaient aussi vivre une expérience à l'étranger. Et c'était des bons moments. Je suis allée en Égypte deux fois avant de partir en Égypte. Et deux fois avant de partir en un an en Égypte. Et en y allant, j'ai un peu découvert ce que c'était que partir en volontariat pendant un an, notamment en te rencontrant toi, en rencontrant les autres volontaires qui étaient là-bas. Donc ça m'a travaillé. J'avoue, j'avais bien envie. Je trouvais ça effrayant d'abord. Je me suis dit, mais quelle idée, partir un an comme ça, loin de tout et tout, ça doit être difficile. Et après, je me suis dit, mais j'aimerais bien me lancer là-dedans un jour, me lancer ce challenge et tout ça. Et à la fin de ma licence, j'avais vraiment besoin de trouver un moyen de faire une coupure, une vraie coupure dans ma vie avec les associations dans lesquelles j'étais engagée, mais aussi dans mes études, etc. Et j'ai proposé à Timothée. Cette option, est-ce que ça te dirait de partir avec moi un an en volontariat quelque part, peut-être en Égypte, peut-être ailleurs? Et ben voilà, Tim il m'a suivi, j'ai eu de la chance.
Moi ça faisait depuis le début de mes études que je me disais Ah, ça pourrait être sympa éventuellement de partir une année en Erasmus ou en projet à l'international pendant un an, découvrir un peu une autre culture, avancer différemment dans ma vie. Et quand Lorraine est venue avec ce projet, en fait, ça collait avec ce que j'avais envisagé éventuellement. Et en même temps, c'était neuf et c'était une autre vision d'une façon de partir, de découvrir autre chose. Et je suis très content qu'elle soit venue avec ce projet parce que au final, j'ai vraiment beaucoup aimé cette année à l'étranger. J'ai grandi et tout ça, voilà.
Je suis partie 2 fois en Égypte durant mes études parce que il y avait une association qui s'appelle l'ACO, c'est aussi l'association qui nous a envoyés avec le DEFAP, qui organisait des voyages en Égypte pour des lycéens à la base, puis finalement pour des étudiants quand moi j'ai commencé à partir. C'est un pasteur qui s'appelle Mathieu Buche, qui est pasteur du coup de l'ACO, qui est directeur de l'ACO actuellement, qui organiser ses séjours, et l'objectif c'était d'aller rencontrer, d'aller découvrir une autre culture, de découvrir un nouveau pays, et ensuite aussi de vivre un échange avec les filles de la maison Fowler pour aussi faire part de venir les aider pour les devoirs, et puis tout simplement aussi faire part de notre amitié, montrer qu'on est là. Même si on habite loin, ben on pense les uns aux autres. Et voilà, c'était super de découvrir ce pays dans ce contexte-là. Et ça m'a même donné envie de continuer en vivant 1 an là-bas.
Quand Lorraine m'a parlé du projet de partir à l'étranger, enfin, du coup, on en a parlé en début d'année et Mathieu Buche partait vers février tous les ans. Du coup, comme Lorraine y était 2 fois les années passées, j'y suis aussi allé par ce biais-là une première fois, histoire de confirmer que ça me donnait envie comme endroit et que c'était un projet qui me plaisait. Et du coup, on a confirmé un peu ce projet de partir à l'étranger et particulièrement en Égypte comme ça.
Ce qui était rigolo, c'est que quand on est arrivé là-bas sans aucun repère, finalement, ben, on n'avait pas vraiment aucun, puisque quand on est arrivé, on s'est dit, ah, mais tu sais, Mathieu, il m'a montré ça, je vais te montrer. Ça a commencé, la première étape de notre année là-bas, ça a été, on se partage ce qu'on a appris avec Mathieu quand on était en Égypte. Ça nous a vraiment aidé, en fait. Ça a été une espèce de sécurité pour nous d'avoir déjà été 2 ou 3 fois en Égypte. Avant, et de se dire, ben voilà, je sais qu'ici il y a un supermarché, ou je sais ici je peux changer de l'argent, des euros en livrée égyptienne, enfin, des choses toutes simples comme ça qui finalement sont tellement rassurantes quand on arrive là-bas.
Ouais, et en même temps, enfin, c'était, on n'était pas non plus complètement chez nous quand on est arrivé pour le projet long, parce que même si on avait quelques points de repère que nous avaient donné les voyages passés, c'était quand même une toute autre chose d'y vivre seul. Enfin, on était tous les deux, mais c'était quand même toute autre chose que d'avoir quelqu'un de référent qui connaît bien, qui parle la langue, enfin, Mathieu parle pas l'arabe couramment, mais il a des très bonnes bases bien solides. Et du coup, on était vraiment, quand on était tout seul, on était vraiment lâchés quand même un peu différemment que quand on était parti, quoi.
Et finalement, en fait, la grosse différence, c'était que les moments où on y allait pour 2 semaines ou 10 jours, ben, on s'investit pas non plus forcément autant dans l'idée de s'intégrer au pays, même si on s'y intègre pas en 1 an, mais que quand on part 1 an. Et la première fois, on y était en touriste. Et la deuxième fois, on y était un peu comme travailleurs venant de l'étranger, enfin je sais pas comment dire, mais en tout cas c'était notre maison en fait. Pendant 1 an c'était vraiment notre maison. On avait besoin de se sentir bien dans ce pays et dans cette ville. Et du coup bah, ça demande un investissement beaucoup plus important, justement pour parler un peu la langue, etc., que quand on y va pour 10 jours et qu'on sait que c'est bon, au bout de 10 jours on re retourne à la maison en France et c'est passé quoi.
Quand on y va avec un groupe, on n'est jamais vraiment tout seul dans la ville. Et alors que quand on n'est que tous les deux, bah forcément, on n'est pas en permanence l'un avec l'autre. Donc, il y a des moments où on sort tout seul, on va faire nos courses tout seul, on va chercher des choses tout seul, rencontrer des gens tout seul. Et c'est quelque chose qui est quand même assez difficile dans une culture différente parce que il y a tout un tas de barrières dont on se rend pas compte quand on est en groupe, mais qui sont vraiment présentes. Je pense à Lorraine qui, en tant que femme blonde aux yeux bleus, a découvert pas mal de choses.
Non, c'était pas très drôle tous les jours. Apparemment, c'était pas très habituel pour de voir des femmes comme moi dans la rue. Bon. Mais après, au bout d'un moment, quand on comprend les codes, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est sûr qu'en 15 jours, enfin, on se pose pas les mêmes questions. On se dit, oh, c'est bon, oui, ça va passer. Et puis bon, ils savent que je suis qu'une touriste et tout ça. Là, quand on vit au quotidien, on fait vachement plus gaffe parce que forcément, bah, les gens, ils vont nous voir pendant un an. Il faut se protéger aussi. Et voilà. En un an, on fait des choses qu'on n'aurait pas fait en 15 jours, je sais pas, typiquement aller chez le coiffeur ou aller chez le médecin ou des trucs comme ça. Quand on y est 15 jours, c'est bon, on n'a pas besoin de s'intéresser à ça. Alors que quand on y est un an, on est obligé de trouver parfois, quand on a besoin, où c'est, comment ça se passe dans ce pays et tout. Donc, c'est aussi la grosse différence, quoi.
La première chose que ça m'a apporté, moi, je dirais que c'est une forme d'ouverture. C'est-à-dire que j'étais pas fermé aux autres cultures avant. Clairement, ça m'a toujours intéressé de découvrir d'autres cultures et tout ça. Mais j'ai l'impression d'avoir d'autres clés pour m'ouvrir aux autres autour de moi et à la compréhension des autres cultures qui coexistent dans notre espace autour de nous. Parce qu'au final, dans nos villes et même dans nos petites villes, il y a de la coexistence entre différentes cultures et c'est vraiment découvrir ce qu'on vit quand on n'est pas soi-même né dans une culture et qu'on y vit et machin. Ça permet de comprendre aussi que nos codes, ils sont pas naturels pour tout le monde. Et il y a des choses qu'on comprend pas, que les gens qui viennent chez nous aient du mal à faire, qu'une fois qu'on va chez eux, eux ils comprennent pas que nous, ces choses-là, on a du mal à les faire dans l'autre sens, ou à ne pas les faire. Enfin, et c'est vraiment super sympa sur cette forme d'ouverture. C'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit. Mais après, c'est loin d'être le seul.
C'est vrai que ça remet en question beaucoup de choses de partir comme ça sur notre façon de vivre, sur nos besoins. En fait, quand on part loin de chez soi avec quelques affaires seulement, bah, on se rend compte aussi de bah, quelles sont les choses vraiment utiles pour qu'on se sente bien dans notre vie. Bah, aussi en termes de relations sociales, bah, on est loin de nos amis, loin de nos familles. Bah, heureusement, il y a Internet, etc., mais ça suffit pas. Donc, en fait, comment on est capable de tisser aussi des relations durables et de se sentir un peu, de trouver une espèce de une nouvelle famille finalement dans un pays qui est tout autre. Aussi, je me suis rendu compte en partant là-bas enfin, je pouvais me sentir chez moi en fait un peu partout. Enfin, j'avais pas besoin de grand-chose pour me sentir chez moi à part peut-être un lit et une salle de bain pour pouvoir enfin je sais pas vivre un peu au quotidien et un frigo enfin ou quelque chose pour manger quoi mais enfin finalement c'était intéressant de vivre toutes ces expériences et aussi
Ouais, on en a appris beaucoup sur nous. Enfin, personnellement, j'ai l'impression que je me suis découvert beaucoup en rencontrant d'autres gens. Enfin, c'est vraiment la rencontre de l'autre. C'est le meilleur moyen de se connaître soi-même parce que c'est là qu'on se rend compte que l'autre a des différences et des points communs et que c'est de ces différences et de ces points communs que naît un nouveau regard sur nous-mêmes. Et c'était vraiment chouette.
Moi, j'ai beaucoup appris aussi sur être une femme. En fait, bon, moi, ça m'intéresse pas trop hein, ces sujets-là. Et puis, moi-même, avec moi-même, j'étais pas forcément très sympa, quoi. En allant dans ce pays, j'étais beaucoup avec des femmes, en fait. Et ça, c'était très nouveau pour moi. Mes collègues, c'était toutes des femmes. Quand j'allais à la paroisse, j'ai fait partie d'un groupe de femmes. Attention, pour moi, ça me paraissait être bizarre de faire ça. Mais bon, quand je suis allée là-bas, je me suis dit, allez, ça doit être pas si mal que ça. Et c'était génial. Mais du coup, ça m'a appris aussi beaucoup sur ce que c'est être une femme en France ou ce que c'est être une femme en Égypte, ce que c'est être une femme dans plein d'autres pays d'Afrique. Parce que dans la paroisse, il y avait des femmes qui venaient plutôt d'Afrique subsaharienne, du coup, mais qui avaient aussi d'autres cultures. Ça a été aussi extrêmement riche. Et puis à la Maison Fowler, c'était aussi des filles et la sœur m'a aussi beaucoup appris sur tout un tas de choses. Sa vision du monde est super intéressante et très enrichissante. Donc il y avait ça. Et puis aussi un autre sujet, peut-être des questions que j'osais moins me poser en France parce que j'étais très mal à l'aise par rapport à ça, mais les questions notamment de la foi. En Égypte, la religion a beaucoup de place. C'est impossible en fait de pas avoir, d'éviter le sujet là-bas parce que, comme dit, c'est sur leur carte d'identité qui est indiquée la religion quand même. C'est très particulier. Du coup, c'est un sujet qui était très très présent dans le quotidien entre les appels à la prière, mais aussi les collègues qui parlent de ça. Voir les filles aussi, puis les icônes, les temps de prière, etc. La foi, la religion, elle est présente partout. Et moi, ça m'a permis de me poser des questions sur ma foi et d'avancer vachement là-dessus pour réussir à me positionner finalement, ce que je n'osais pas faire en France, parce que quand j'étais à la fac ou à l'école avant, c'est des sujets que je ne pouvais pas aborder avec d'autres personnes parce que c'était un peu tabou et on n'en parle pas, ça se fait pas, c'est bizarre. Voilà. Donc ça aussi, ça a été hyper riche.
Bon, quand tu parles de la foi qui est partout, je repense aux grandes affiches et aux grandes peintures de Mohamed Salah partout dans les villes et tout.
Ah oui.
C'est le joueur de foot iconique.
C'est marrant parce que Tim, maintenant qu'il est prof, il a un élève dans sa classe qui s'appelle Mohamed Salah.
C'est son prénom.
C'est son prénom. Et du coup, voilà, c'est ça aussi. C'est ça qui... L'Égypte est encore très présente dans nos vies. On y pense beaucoup, on en parle beaucoup. Là, tout à l'heure, j'étais dans un supermarché. J'ai trouvé du foule. Et voilà, nos vies, c'est un mix de nos souvenirs d'Égypte et notre vie ici. C'est moins des surprises quotidiennes d'être en France ou en Égypte tous les jours. Il y avait de nouvelles aventures ici. C'est un peu...
Il y a régulièrement des choses qui arrivent autour de nous où je me dis c'est n'importe quoi et puis après je me dis mais en fait c'est normal en Égypte et ouais en fait ça va quoi et ça me permet beaucoup de relativiser autour de moi je pense j'étais toujours un peu psychorigide sur beaucoup de choses avant de partir et ça m'a permis de détendre sur pas mal de sujets quand je vois autour de moi. Le premier exemple qui me vient, c'est les gens qui se garent n'importe comment ou des choses comme ça. Je me dis, ouais, bon, ça passe maintenant, alors que avant ça m'irritait, quoi. Enfin, des trucs comme
ça.
Il y a
des feux rouges et tout ça, je rigole. Non, hein.
On reprend vite quand même les réflexes du code de la route pour sans sécurité.
Mais on se rend compte aussi de ce qui est très vision et occidentale des trucs. On est vraiment psychorigide sur certaines choses qui sont finalement même pas des questions dans d'autres pays, comme par exemple en Égypte, parce qu'il y a tellement d'autres questionnements qu'on n'est pas du tout synchro et des fois ça permet de prendre du recul aussi sur tout un tas de choses.
Et puis, on parle de ce que ça nous a apporté à nous, mais ça a apporté, je sais pas comment dire, mais on a découvert d'autres gens. On s'est pas juste changé nous-mêmes. J'ai l'impression qu'on a quand même.
On a reçu beaucoup.
On a reçu beaucoup, et c'est pas nous qui nous sommes changés. C'est nos interactions, c'est les gens
qu'on a rencontrés,
nos missions, c'est un peu un ensemble de facteurs qui nous ont fait évoluer.
Et maintenant, on a plein d'amis en Égypte. Enfin, on revient et on pense beaucoup à nos amis d'Égypte
c'est ça.
Qui, euh, Et moi, tous les jours, il y a toujours un moment dans ma journée où je pense à eux, quoi. Que ce soit les filles à Fowler, ou que ce soit mes collègues au travail, ou que ce soit les femmes de la paroisse, enfin, vraiment très très couramment, je pense à eux, quoi. Je me dis, on est en lien, quoi. Même si on peut pas se voir, je sais que il y a quelque chose qui s'est créé, des liens d'amitié, quoi. C'est puissant de sentir que on n'est pas juste, ça s'arrête pas juste à notre pays et que on a aussi ce lien et ces pensées pour des personnes qui vivent ailleurs. Je trouve que ça fait du bien.
Quand je vois un kebab dans la rue, je repense aux vendeurs de koshari dans les rues en Égypte.
C'est pas tout à fait pareil.
C'est pas du tout pareil, hein, mais c'est vraiment. Enfin, j'ai fait le lien à un moment donné dans ma tête entre les deux, et depuis, à chaque fois, j'y pense. Et maintenant, je peux pas passer devant un kebab sans avoir une pensée pour l'Égypte, alors que c'est pas du tout un pays du kebab, hein, mais.
Quand je suis partie d'Égypte, le moment des au revoir, ça a été un moment très important, enfin pour Tim et moi, parce qu'on trouvait que c'était difficile de s'en aller, de quitter cette vie qui nous plaisait finalement là-bas, et de quitter ces gens, voilà. Parce qu'on savait qu'on les reverrait pas aussi facilement que nos familles françaises.
Et surtout, après un an, on commençait à avoir l'impression de comprendre les codes, de réussir à baragouiner quelques mots dans la langue, dans nos missions, on commençait à être à l'aise, vraiment bien, on commençait machin. Donc ça nous a pris du temps, tout ça.
Et en fait, du coup, quand on est parti, je me suis dit, ça ne peut pas s'arrêter comme ça avec mes collègues du collège. À moi maintenant de les accueillir dans mon pays, parce que je leur ai tellement parlé de trucs de la France, et en fait, ça me paraissait quand même dingue qu'elles aient été dans des collèges ou dans des lycées où elles apprenaient le français, où elles avaient une partie des matières en français, puis ensuite elles ont fait de la littérature française à la fac, puis après elles sont devenues profs de français, et en plus profs à l'institut français, et il y en a plein qui n'avaient jamais vu la France, quoi. Et ça, c'est un truc qui me paraissait fou. Je me suis dit, mais c'est fou, parce que je veux dire, en France, on aurait fait des études d'arabe, etc., on aurait peut-être, dans notre cursus, pu aller en France, enfin... Je me suis dit, ouais, c'est fou, elles sont vachement intéressées par cette culture-là, alors qu'en fait, elles n'ont jamais rencontré. Donc je me suis dit, il faut qu'on trouve un système, et j'aimerais vraiment pouvoir les accueillir dans mon pays, pour moi, à mon tour, leur faire un peu guide touristique, et puis leur expliquer les codes, et puis voir un peu leur tête, quand elles découvriraient comment on fonctionne pour ci ou pour ça, et voilà. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à aller jusqu'au bout parce que le DFAP offrait cette possibilité de faire des projets en revenant de mission. Du coup, j'ai saisi cette occasion-là et puis la CEO m'a soutenue là-dedans. Ça a été super intéressant. Elles ont adoré ce voyage. On a commencé, et moi aussi. On a commencé par aller à Paris quelques jours. C'était très drôle parce que je me rendais compte qu'il y avait des trucs qui leur plaisaient pas du tout. Alors que moi, ça me paraissait tellement génial. Et où, par exemple, je sais pas, aussi sur la propreté de la ville ou sur les transports en commun, il fallait beaucoup marcher. C'était pas évident pour elles. Parce qu'en Égypte, on marche peu, on est beaucoup dans des taxis. Mais y a tout un tas de trucs. En fait, je m'attendais pas à ce qu'elles réagissent forcément moyennement positivement. Je pensais qu'elles allaient trouver ça bien. Et en fait, pas forcément. Et je me suis dit, à mon avis, quand je disais des trucs sur comment était ma vie en Égypte et ce que j'aimais pas trop en Égypte, ça devait leur faire le même effet, quoi. Donc c'était drôle. Et après, on est allé à Strasbourg, et forcément, c'était chez moi. Donc elles l'ont vécu aussi un petit peu plus sereinement et paisiblement, parce que c'était un peu plus tranquille, c'est la province... les gens étaient peut-être plus accueillants, moins stressés qu'à Paris, et à Paris, elle trouvait que les gens, ils étaient pas très sympas. À Strasbourg, c'était différent. Et, je sais pas, j'ai trouvé ça génial de vivre ça, parce que c'était quand même faire le voyage dans l'autre sens. J'étais à leur place et elles étaient à ma place. Et sauf que j'étais toute seule la plupart du temps face à elle, alors que quand j'étais en Égypte, elles étaient toutes là pour écouter mes relâches sur l'Égypte. Et du coup, il me manquait toujours des fois une personne avec moi pour dire « Mais tu te rends compte, elle trouve ça bizarre, alors que franchement, c'est pas bizarre, hein ?» Comme elles auraient pu le faire quand j'étais en Égypte, mais du coup, c'était trop bien. Et quand elles étaient à Strasbourg, elles ont pu vivre dans des familles, elles ont en fait été hébergées par des familles. Et du coup, elles étaient immergées vraiment dans la vie de Français jusqu'en vivant chez eux, quoi. Donc ça, c'était... Elles ont pu voir des choses qu'elles n'auraient jamais vues, je pense, en venant faire du tourisme en France. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que elles comprennent un peu mieux certaines de mes questions et que peut-être ça les aidera à parler de la France aussi et de la culture française aux élèves à l'école, même si elles le font déjà très bien, mais peut-être que derrière, elles comprendront mieux ce qui est écrit dans les livres qu'elles enseignent aux élèves, parce qu'elles auront vécu un morceau de cette culture, enfin, elles auraient vécu au cœur de cette culture.
Ça aura plus de sens, ce qu'elles racontent pour elles.
C'est ça. Bon, il y en a qui étaient déjà venues en France, mais pas toutes, quoi. C'était vraiment chouette.
L'expression qu'on utilise encore quotidiennement, c'est « malish », qui veut dire « c'est pas grave, on passe à autre chose ». Voilà, c'est notre un petit truc qu'on utilise régulièrement encore, qui nous a vraiment marqué, parce que c'est un peu aussi révélateur de cette culture égyptienne où il se passe plein de choses tout le temps, et c'est une grosse ville, le Caire, où il y a des gens partout, il y a des interactions en permanence, et toutes les interactions ne sont pas forcément pacifiques, et il y a un peu ce « ouais, c'est bon, allez, on passe à autre chose, malish », et voilà quoi. Au point même que malish, ça veut dire
c'est
pas grave, mais on peut l'utiliser quand on à la place d'un désolé.
Au lieu on peut l'utiliser pour tout, en fait.
Quand
c'est
on bouscule quelqu'un dans la rue, on peut lui dire « Oh, c'est pas grave
». Bon, après, on dit quand même souvent aussi « Inch'Allah, Alhamdoulilah », parce que bon, c'est pratique. Et puis moi, je pense souvent, le matin, quand je me lève et qu'il fait beau, j'ai en tête « Sabah el Yasmin », ça veut dire matin de jasmin, enfin je sais pas comment
mais
dire. Dites,
mais si on voulait le traduire, ça voudrait juste dire bonjour. Mais
la traduction
littérale, c'est que ta matinée soit de jasmin.
Mais parce que j'adore le côté poétique de la langue arabe, je trouve ça trop bien. Ça me met de bonne humeur le matin. mais bon, malheureusement, on parle pas très très bien l'arabe. On aimerait bien approfondir nos connaissances en arabe parce qu'on trouve cette langue très jolie. Est très riche, mais c'est ouais, du boulot, c'est du boulot.
Sur un an, on a réussi à avoir le minimum de vocabulaire pour faire nos courses, vivre, parler avec
non, le chauffeur vocabulaire de taxi, de survie.
Rapidement comprendre à peu près de quoi il nous parle et pouvoir baragouiner deux, trois mots pour qu'il nous comprenne. Mais c'était...
Bon après, il faut dire qu'il était répéteur de français, moi j'étais prof de français, donc en fait, ce qu'on nous demandait, c'était plutôt de parler français. Ça aidait pas trop là.
Non, ouais, on a appris de l'arabe, mais c'est pas pendant un an, on a quand même beaucoup parlé français. C'est pas la principale.
Ce qui est marrant, c'est que notre prof d'arabe, à la fin de l'année, il nous a annoncé qu'il venait en France. Et du coup, maintenant, il est en France. Et en fait, c'est lui qui l'a laissé tomber. Il s'est dit, allez.
Surtout qu'il n'était pas francophone à la base. On prenait des cours d'arabe avec un professeur qui parlait anglais et arabe. Donc c'était déjà...
Si tu ne vas pas faire d'échange de langue ensemble, je vais carrément venir en France, ce sera plus simple.
Quoi. Voilà. Du coup, l'année d'après, il a vécu ce qu'on a vécu, la galère de débarquer dans un pays sans comprendre la langue.
Voilà. Merci le DFAB de nous avoir permis de vivre ça, parce que je pense que ça a profondément marqué nos vies. Ça nous a aussi, en tant que couple, ça nous a fait vivre une aventure exceptionnelle.
Ouais, ça, le DFAP, avant de partir, la plupart des gens nous ont dit « Bon, vous avez deux options en tant que couple quand vous parlez, quand vous partez, pardon, soit vous vous séparez, ça casse, soit vous renforcez votre couple et ça vous permettra d'avancer plus sereinement dans votre vie, etc. » Ben, j'ai l'impression que ça nous a plutôt renforcés.
Ça a terminé par une demande en mariage, donc ça va.
Ouais, c'est ça.
Mais voilà. Merci déjà.